Vous voici sur le site archéologique gréco-romain d'Olbia. Devant vous se trouve le premier des panneaux qui guideront votre visite. L'histoire de ce site remonte à la fin du IVe siècle avant notre ère, lorsque les Grecs venus de Marseille fondèrent la ville d'Olbia, qui est aujourd'hui un quartier de Hyères-les-Palmiers. Le nom de cette petite colonie fortifiée signifiait « la bienheureuse ». Son port, véritable poste de surveillance de la côte sur la route maritime vers l'Italie, offrait protection et escale aux navires de commerce. En 49 avant Jésus-Christ, la défaite des Marseillais, alors ralliés de Pompée contre César, accéléra la romanisation de la région. La première place était dorénavant occupée par Toulon. Les vieux sanctuaires d'Olbia à Artémis et Aphrodite furent désacralisés et abandonnés. L'activité économique d'Olbia fut cependant maintenue, voire renforcée. Les boutiques et même les entrepôts s'installèrent. Les îlots d'habitation furent réorganisés, des petits thermes hygiéniques construits, l'enceinte en partie rebâtie, le port doté d'une jetée. La ville devint aussi un lieu de villégiature avec la construction sur le bord de mer de vastes thermes thérapeutiques alimentés par l'eau de la source de San Salvador, amenée par un aqueduc. Vers le début du 7e siècle, le site fut abandonné, sans doute au profit de celui de la colline du château, jusqu'à l'installation d'une première église au XIe siècle, puis de l'abbaye Saint-Pierre de l'Almanar au début du XIIIe siècle. Mais après son abandon à la fin du XIVe siècle, le site fut déserté jusqu'à l'époque moderne. C'est au milieu du XIXe siècle que les fouilles ont commencé, mais elles n'ont fait l'objet d'une véritable approche scientifique qu'au milieu du siècle suivant.
Pour poursuivre la visite de ce site, rendez-vous devant le deuxième panneau en haut de l'escalier à droite. Faites pause, puis relancez le commentaire une fois arrivé au panneau numéro 2.
Vous découvrez ici les habitations grecques. À l'abri des remparts se logeaient une centaine de familles de colons dans des maisons de superficie identique, regroupées par trois, à l'intérieur d'îlots semblables à celui que vous découvrez. Leur plan comprenait en général quatre pièces, desservies par un couloir central, au fond duquel se trouvait l'espace cuisine à ciel ouvert. Les pièces abritaient des espaces de vie, chambres, salles communes, mais aussi éventuellement de stockage et de travail d'artisanat, comme ici dans cet îlot une forge et un traiteur. La ville abritait environ 500 à 600 habitants. Les colons envoyés par Marseille étaient à la fois des marins, des pêcheurs et des soldats chargés de la surveillance de la côte pour le compte de Marseille. Mais les femmes exploitaient aussi le lot de terre qui avait été attribué aux colons en même temps que sa maison en ville.
Pour poursuivre votre visite, rejoignez le troisième panneau. Faites pause, puis relancez le commentaire une fois arrivé au panneau numéro 3.
Faisons un saut dans le temps vers le changement d'ère, sous Auguste régnant à Rome. Vous voilà maintenant face à la rue principale de la ville et aux boutiques qui l'abordent avec leurs longs seuils de pierre, sous un portique protecteur. Dans l'îlot entièrement fouillé sur votre droite, en arrière de la boutique d'un marchand de vin donnant sur la grande rue, se trouvait son entrepôt d'amphores de vins locaux et étrangers, surtout italiens, et sa maison d'habitation. Retournez-vous pour contourner la zone située derrière vous afin de rejoindre par la gauche le panneau numéro 4, consacré au puits public grec. Sur votre parcours, vous verrez le comptoir peint d'une boutique romaine, un café ou un fast-food comme on dirait aujourd'hui, découvert dans un excellent état de conservation et récemment restauré.
Faites pause, puis relancez le commentaire une fois arrivé au panneau numéro 4.
Le puits public se trouvait au cœur de la ville, au croisement des deux voies principales. Il était bordé d'une petite place dallée où femmes et enfants puisaient l'eau dans leurs cruches. Ce puits a été partiellement creusé dans la roche pour atteindre la nappe phréatique à presque 8 mètres de profondeur. Son cuvelage circulaire de blocs de pierre est intact. Sur la margelle carrée, des traces témoignent de la présence d'un système de puisage en bois et à l'aide de cordes. Ce puits pouvait être à l'époque grecque le point unique d'approvisionnement en eau de la ville, en dehors des réservoirs particuliers. Il fut régulièrement utilisé et entretenu du 4e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, date de son comblement pour une raison inconnue, alors que la ville devait continuer à exister encore 4 siècles.
Rendez-vous devant le 5e panneau traitant des sanctuaires grecs. Il se situe derrière vous. Faites pause, puis relancez le commentaire une fois devant le 5e panneau.
Comme dans toutes les villes grecques, Olbia complétait son système défensif par une protection divine. Deux sanctuaires ont ainsi été découverts, adossés aux remparts à l'ouest et au nord. Ci-devant, le plus vaste d'entre eux, visible dès l'entrée de la ville, se dressait à l'extrémité de la voie principale est-ouest. Un certain nombre d'objets votifs ont été retrouvés à cet emplacement. Des statuettes et figurines féminines d'argile et des graffitis. Ils évoquent vraisemblablement le culte d'Artémis, déesse première des Phocéens, fondateur de Marseille. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'aspect monumental de ce sanctuaire, fouillé seulement en partie et qui se poursuit sous la route moderne. Édifié contre le rempart nord, un second sanctuaire était dédié, d'après une inscription retrouvée sur une pierre d'entablement, à Aphrodite, déesse de l'amour et protectrice des navigateurs. Quand les Romains prirent le contrôle d'Olbia, ces deux sanctuaires furent, semble-t-il, désacralisés et en partie abandonnés.
Pour poursuivre la découverte du site, avancez jusqu'au 6e panneau. Faites pause, puis relancez le commentaire une fois arrivé devant le panneau numéro 6.
Vous voici face à un petit ensemble thermal. La vie à l'époque romaine comportait de nombreux lieux de rencontre et de divertissement, comme ces thermes construits vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Témoin de la romanisation d'Olbia, il répondait aux soucis de bien-être et d'hygiène des Romains. Après s'être déshabillé dans le vestiaire, l'apoditerium, le baigneur se réchauffait soit en se livrant à des exercices sportifs dans la palestre attenante, soit dans la pièce tiède, le tepidarium. Puis il passait dans l'étuve, le laconicum, et dans la salle du bain chaud, le caldarium. Avant de repasser par le tepidarium, et de s'immerger dans la piscine de la salle du bain froid, le frigidarium. Les thermes étaient de véritables centres de santé, liant activité physique, soins, détente et loisirs. Fréquentés quotidiennement par la population libre, ils étaient aussi des lieux de sociabilisation.
À présent, rendez-vous devant le 7e panneau. Vous pouvez faire pause, puis relancer le commentaire une fois devant le panneau numéro 7.
Prenant la suite d'une première église implantée là depuis au moins le 11e siècle, c'est en 1221 que fut fondée l'abbaye Saint-Pierre de l'Almanar. Elle accueillit des religieuses de l'ordre cistercien jusqu'à la fin du 14e siècle. De l'ensemble de l'abbaye, qui couvrait une superficie d'environ 5000 m², seule l'église, le cimetière et des restes du mur de clôture sont connus et ont été fouillés. La première église de style roman était à l'origine composée d'une nef unique, la nef sud actuelle. Au moment de la fondation de l'abbaye, elle fut agrandie par l'ajout d'une seconde nef sur son côté nord. Les deux nefs présentent un chœur semi-circulaire et un chevet plat. Enfin, dans leur dernier état, des murs séparent les deux nefs pour créer une chapelle isolée, réservée peut-être au seul monial. Le cimetière, accolé au chevet de l'église, se divise en deux parties. Talus artificiel de 5 mètres de large contre l'édifice pour accueillir en priorité les tombes des moniales et une zone en contrebas pour les sépultures des laïcs qui travaillaient et vivaient à proximité de l'abbaye. Près de 500 tombes ont été fouillées. À côté de quelques caveaux et de coffrages en pierre, les tombes en pleine terre sont de plus en plus nombreuses. Certaines sont encore visibles sur votre gauche après le 8e panneau.
Avancez jusqu'au 8e et dernier panneau. Faites une dernière pause dans le commentaire.
Les Grecs de Marseille avaient bâti Olbia sur un plateau légèrement incliné vers la mer, à l'amorce du cordon de sable reliant le continent à la presqu'île d'Eugien. C'est dans la lagune enfermée entre les deux cordons de ce tombolo qu'ils avaient installé leur port protégé des vents d'est et d'ouest comme poste de surveillance sur la route maritime vers l'Italie, mais aussi comme une étape pour le petit cabotage et un refuge pour la navigation lorsque les conditions météorologiques étaient difficiles. En revanche, ils avaient peu de relations avec les indigènes de l'intérieur. Lorsqu'Olbia échappe à l'emprise marseillaise au profit des Romains, la fonction de la ville se modifie. Les pirates ligures ont été anéantis par la flotte militaire romaine qui installe bientôt un nouveau port de guerre à Fréjus. Règne alors ce que la propagande officielle appelle la Pax Romana, la paix romaine. Olbia devient alors une petite ville de commerce et de divertissement, qui profite du développement de l'agriculture, et surtout de la viticulture dans l'arrière-pays, et d'un programme d'installation de thermes thérapeutiques.
Ce contenu a été élaboré par Sylvie Brunati-Abad, Toulon-Provence-Méditerranée, en partenariat avec la région et l'Europe, avec la collaboration de la société Audiovisite.